journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. La Russie clairement mise en minorité à l'ONU hier où elle tentait de faire condamner les frappes occidentales sur la Syrie et Vladimir Poutine qui se tourne à présent vers la Turquie pour trouver du soutien. Et si tout cela n'avait été que pure démonstration de force, un coup de missile dans l'eau, analyse critique dans ce journal du politologue Salam Kawakibi, il dirige le Centre arabe de recherche et d'études politiques. Emmanuel Macron à l'heure des bilans de sa première année à l'Élysée, il sera ce soir face à Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin pour 2 heures de castagne verbale selon son entourage. Et puis c'est l'autre Hongrie qui manifestait hier 100 000 personnes dans les rues pour dénoncer la victoire de Viktor Orban et de son parti aux législatives de dimanche dernier. Et un scrutin entaché de fraude selon les manifestants d'hier. C'est donc l'heure des bilans et des conséquences 24 heures après ces frappes menées conjointement par Paris, Washington et Londres sur la Syrie. Pour le bilan, on s'en remettra à la ministre des Armées française, Florence Parly, qui parlait hier soir de succès pour les missiles tricolores qui ont tous touché leur cible militaire, selon la ministre. Qu'ont-ils détruit exactement sur ce point? Les doutes restent permis, on le verra. Mais après, la chose militaire, c'est la diplomatie qui tente de reprendre le dessus. Dans la soirée d'hier au Conseil de sécurité de l'ONU, cette diplomatie s'est soldée par un échec pour la Russie qui voulait faire condamner les frappes occidentales. Pour tenter de ne pas perdre la main un peu plus, Vladimir Poutine s'est ensuite tourné vers un autre acteur majeur du conflit syrien, j'ai nommé le président turc Erdogan. La suite, on l'analyse depuis Moscou avec Claude Bruyot.
Confronté à l'échec militaire et surtout diplomatique hier, Vladimir Poutine a espéré trouver chez ses alliés turcs le soutien qu'il recherche pour garder la main dans la crise syrienne. Au téléphone hier soir, son interlocuteur du moment, Recep Erdogan, jouait lui sur plusieurs tableaux, prêt à s'engager avec le président russe dans la recherche d'une solution politique en Syrie après avoir salué les frappes occidentales. Dans le genre partenaire fiable, Vladimir Poutine a sûrement dû espérer mieux. Le Kremlin se trouve aujourd'hui coincé entre le régime d'Al-Assad qu'il ne parvient pas à convaincre d'abandonner totalement les armes chimiques et une pression occidentale qui remontera forcément encore d'un cran au prochain écart. Vladimir Poutine a compris que la solution n'était plus militaire et qu'il aura besoin du dialogue pour desserrer l'étau. Oublier les ripostes armées, la Russie qui veut avant tout préserver ses intérêts vitaux en Syrie va devoir revenir à la table des négociations, contrainte de faire preuve de davantage d'ouverture.
Claude Bruyot à Moscou et à Washington, cette fois l'état-major américain se dit prêt à dégainer à nouveau si toutefois Bachar al-Assad devait franchir encore une fois la ligne rouge et faire usage d'armes chimiques. Car sur les conséquences réelles de ces frappes d'hier sur l'arsenal illégal de Damas, on le disait, les questions restent entières à tel point que cette opération coordonnée par les Occidentaux semble se résumer à une simple démonstration de puissance. C'est en tout cas l'analyse du politologue Salam Kawakibi. Il dirige le Centre de recherche et d'études politiques arabes.
Ces frappes étaient très symboliques. La Russie a été avertie en amont et qui a de son côté aussi sûrement averti le régime syrien qui a évacué les bases. Ça nous rappelle ce qui s'est passé il y a un an exactement où les Américains ont frappé une base aérienne en détruisant 6 carcasses d'avions qui datent des années 60, parce que cela a été fait en coordination avec la Russie. Vous savez, avec les produits chimiques, le régime Assad n'a pas tué plus que 2000 à 3000 personnes. Pourtant, avec les armes conventionnelles, il a tué à peu près 500 000 personnes. C'est la poudre aux yeux et c'est la poudre dans les canons du régime syrien pour continuer à tuer son peuple. Quand on frappe de cette manière, sans aucune vision, sans aucune stratégie pour savoir qu'est-ce qui va suivre, au niveau diplomatique au moins, cela veut dire qu'on n'a aucune vision, qu'on est en train de réaliser le vœu d'un président gâteux ou gâté, qui est en l'occurrence M. Trump. C'est une façon de répondre positivement aux déclarations musclées de M. Trump, et malheureusement, la France et l'Angleterre sont tombés dans le piège de dédouaner la situation américaine et de donner une réponse musclée aux déclarations de de la diplomatie Twitter de M. Trump.
Salam Kawakibi, qui dirige le Centre arabe de recherche et d'études politiques, il répondait aux questions de David Ravier. Côté français, enfin, c'est peu dire que ces frappes sur la Syrie font l'unité dans la classe politique. L'opposition radicale de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen dénonçait hier l'engagement d'Emmanuel Macron, rabaissé selon eux au rang de supplétif de la politique étrangère de Donald Trump. Au Parti Socialiste, Olivier Faure salue, lui, l'intervention française. Et chez les Républicains, c'est plus partagé. Bruno Retailleau, par exemple, y voit une démonstration de force qui risque d'alimenter le terrorisme. Xavier Bertrand, lui, se félicite d'une réponse juste de la France face à l'utilisation d'armes chimiques par Damas. On le voit, le sujet fait débat, il va continuer à faire débat et il devrait s'imposer ce soir dans l'interview que le chef de l'État Emmanuel Macron donne sur Mediapart et BFM TV. Cyril Graziani.
La Syrie et les questions internationales plus globalement n'avaient occupé que 3 minutes sur 1h10 jeudi. Il devrait en être, selon toute vraisemblance, autrement ce soir. Emmanuel Macron a pour la première fois ordonné une opération militaire d'envergure hier, surtout alors que Donald Trump et Theresa May ont pris la parole pour justifier et expliquer à leur pays le sens de cette opération. Le chef de l'État français, lui, a gardé le silence, privilégiant certainement une première expression ce soir sous le feu roulant des questions. D'une salle de classe d'un village normand au palais de Chaillot, face à un duo Bourdin-Plenel, l'un comme l'autre réputé pugnace, il pourra aussi revenir avec davantage de temps sur des questions de politique plus générale, comme le style qu'il donne à sa présidence, mais aussi le projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui sera débattu à partir de demain à l'Assemblée et divise la majorité en marche, les questions de terrorisme, de laïcité, notamment après son discours remarqué et controversé de lundi dernier. Emmanuel Macron aime ce genre de duel accroché. Son entourage parle de castagne verbale. Il ne devrait pas être déçu.
Une interview à suivre dès 20h35 ce soir sur le site de Mediapart.fr, donc, ou sur l'antenne de BFM TV. C'est une attaque minutieusement préparée qui a visé hier deux camps de la MINUSMA et de la force française Barkhane dans le nord du Mali. 10 soldats français ont été blessés ainsi qu'une dizaine de casques bleus. Un autre casque bleu a été tué. Les assaillants, d'ailleurs déguisés eux-mêmes en casques bleus, ont tiré des roquettes sur les sites militaires sur lesquels ils ont également projeté des véhicules piégés. Une semaine après son raz-de-marée électoral en Hongrie, le Fidesz, le parti de Viktor Orban, essuyait hier une première vague de contestation. Cette fois, plus de 100 000 personnes, beaucoup de jeunes, dans les rues de Budapest et des principales villes du pays. Il s'agissait donc de dénoncer les soupçons de fraude qui entachent les élections législatives de dimanche dernier. Florence Labruyère est à Budapest pour France Culture.
Bande de tricheurs, disent les pancartes. On veut de nouvelles élections. Déçue et frustrée par le résultat du scrutin de dimanche dernier, Katalin Klotchko est venue manifester avec son mari. Cette élection n'a pas été très régulière. Beaucoup d'éléments montrent qu'il y a eu de la fraude. On est là pour dire au gouvernement qu'il ne peut pas se croire tout permis. Les partis d'opposition ont découvert de nombreuses irrégularités dans le scrutin. Ils ont jusqu'à mardi prochain pour porter plainte. Mais cela ne changera pas le résultat des élections, selon Bolage, un informaticien de 29 ans. Il est découragé. Pour lui, c'est un peu la manifestation de la dernière chance. Le soir des élections, j'ai dit à ma fiancée, s'ils ont à nouveau la majorité des deux tiers, on quitte le pays. Ce gouvernement manipule les gens, il laisse les hôpitaux et l'éducation se dégrader. Je ne vois pas comment on pourrait élever nos enfants dans ces conditions. Les manifestants ont aussi reproché aux partis d'opposition de ne pas avoir fait front commun face à Viktor Orban. Leur division a profité au parti gouvernemental.
Florence Labruyère, donc, en Hongrie. Un retour qui s'annonce gagnant cette fois au Monténégro. Le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche devrait sceller la reprise du pouvoir par Milo Djukanovic. Il avait déjà été président du pays de 1998 à 2003. Il est surtout considéré comme le père de l'indépendance monténégrine acquise en 2006 et de son adhésion ensuite à l'OTAN, très pro-occidentale. On le voit, Milo Djukanovic vise à présent l'adhésion à l'Union européenne pour son pays. Retour en France pour clore ce journal avec ce vol plutôt exceptionnel qui a eu lieu à Nantes, exceptionnel par le lieu où il a été commis, le musée d'Aubray, mais surtout par la nature de l'objet dérobé, un reliquaire en or censé contenir le cœur de la duchesse Anne, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie du XVIe siècle, mais c'est surtout sa valeur historique, symbolique, qui est inestimable selon les conservateurs du musée nantais où ce reliquaire a donc été dérobé. Plutôt ensoleillé ce dimanche selon Météo France, en tout cas sur une grosse moitié est du pays. Le temps donc d'aujourd'hui, il y a tout de même des averses prévues aujourd'hui sur la Bretagne, les Pays de la Loire et dans l'après-midi également sur la région parisienne, la Picardie et l'Aquitaine. Côté température, il fait déjà de 11 à 19 degrés d'ouest en est. Cet après-midi, on sera entre 15 degrés pour Avranches et 22 sur Nîmes.